105.
CIBL 105, Montréal. CIBL 105, Montréal.
Clément?
CIBL, au cœur de la musique.
Il est 19h. Il est 19h. Bienvenue à Sainte-Catherine, Saint-Loup. En direct du studio A de CIBL avec la belle gang de Radio House Underground. Oui! Yeah! Qui viennent tout juste de terminer. On vous salue, oui, oui.
Merci.
Bien assise à côté de moi, ma co-animatrice avec qui j'ai le goût de tout lâcher, faire comme tout le monde et me partir une carrière en humour, là, un duo, quelque chose de même. Allô, Catherine!
Allô, quelle belle introduction. Bonsoir tout le monde. Et oui, on s'en parle tous les soirs, mon cher. Là, parlant d'humour, ce soir, on n'a pas invité Monique et Suzanne pour nous faire une chronique méprisante et militante. On reçoit la jeune artiste Marie Chénier qui va nous faire aussi une performance.
Oh, yes! Woo! Yeah! Oh. Oui, puis restez pas loin cette semaine aussi parce qu'à l'émission, en fin de demi-heure, en fait au début de la demi-heure, à 20h, on reçoit le professeur en sciences politiques et écrivain Francis Dupuy-Déry.
On salue aussi notre ami Jacob Desjardins qui a composé la chanson de l'émission que vous entendez en ce moment. Et l'émission pourrait pas être entendue sans notre metteur en onde Clémence Langlois.
Oui, Laurence et Marie qui créent du beau contenu à chaque semaine. Vous êtes en train de l'entendre, elle est en train de se préparer pour faire ses vidéos et pour nous préparer les vidéos des meilleurs moments marquants de l'émission.
Et bien sûr, pour nous écrire, c'est sainte-catherine-saint-loup.cibel@commercial.gmail.com.
Oui, et là, je me tourne vers ceux que vous avez entendus dès le début de cette émission. Allô, la bande des trois!
Allô!
Vous allez bien?
Est-ce que moi, je pourrais être Nathalie Petrovski si on faisait la bande des trois?
Ça va être qui, Marc Cassivi? Parce que moi, je pense que c'est Victor,
Marc Cassivi. Ah oui,
ouais, fait que toi, t'es Franco Nuovo, Simon. Mais il faut Franco Nuovo, on l'aime. Bon, ben, c'est ça.
Jessica et Karine.
Oui, t'es Karine. Justement, parlons de ces personnes de radio. La question cette semaine, ce samedi soir, c'est votre émission de radio et balado préférée en ce moment. Et je me tourne vers Simon.
Oui, ben moi, je pense que je choisirais L'histoire ne s'arrête pas là, qui est disponible sur Audio, qui est un balado d'histoire vraiment intéressant, là, qui est, à mon sens, peut-être le plus intéressant là, qui se fait en ce moment, là, où il va choisir des thèmes vraiment, vraiment méconnu de l'histoire, surtout dans le contexte canadien-québécois. Puis il va les expliquer. Puis c'est tout le temps des histoires qui ont comme pas d'allure. C'est tout le temps comme un pharaon qui était pris aux chutes Niagara ou des draveurs en Égypte. Ou...
Ah,
c'est vraiment des histoires de fous, donc je le recommande énormément.
Oh. Ah, est-ce que c'est animé par Laurent? Mon Dieu, j'oublie son nom.
Non. Je ne me souviens pas de son nom, malheureusement, mais c'est un journaliste, en fait. Mais il fait une super recherche. C'est
parfait.
Vraiment...
Et cette semaine, tu nous poses la question, quand même très franche, la démocratie nous prend-elle pour des imbéciles?
Oui, bon, ça, c'est mon
titre. C'est mon titre
un peu incendiaire, là. Oui. Mais c'est ça. J'essaie de me poser la question si, du moins, la démocratie, comme on la comprend en ce moment, là, comment elle fonctionne au Canada, au Québec, en ce moment, est-ce qu'elle nous prend réellement comme des sujets politiques qui ont pouvoir sur leurs décisions puis qui comprennent ce qui se passe ou pas vraiment? C'est un peu ça la question.
On va se poser la question ensemble. Je vois Camille Sébastien se poser aussi la même question. Allô, Camille.
Bonsoir, Lou. Bonsoir, Catherine.
Bonsoir, Camille.
Ton émission radio ou balado préférence, maman?
Mais là, je me suis souvenue, je l'ai déjà écouté, là, donc ça se continue pas. Ça s'appelle Parentèle, enquête d'une famille qui nous ressemble. Je vous en avais parlé à l'émission, je pense, dans un des premiers épisodes sur l'amitié. Oui. Et c'est justement deux amis qui décident d'avoir un enfant ensemble. Ça a été réalisé par Maude Boutin-Saint-Pierre, une des deux amies. C'est disponible sur Audio. C'est une série de 5 ou 6 épisodes où on traverse leur parcours, en fait, pour devenir parents ensemble, en tant qu'amis, les enjeux juridiques liés à tout ça. C'est super intéressant. C'est un beau message d'amitié et de j'allais dire d'espoir, là, mais pas vraiment, parce que c'est bien compliqué le système canadien, mais voilà.
OK. Ah, oh, ben, très intéressant. On va mettre le lien sur les réseaux sociaux.
Bien sûr.
Et tu nous parles, c'est un titre, en fait, c'est le titre d'un livre, Sexualité et dissidence queer.
Oui, exactement. En fait, c'est un livre qui se penche sur tout ce qui sort de ce qu'on considère comme l'ordre sexuel normatif, donc ce qui est considéré comme normal en société. On pourrait penser à un homme blanc hétérosexuel cisgenre, donc, et tout ce qui sort de ça devient donc à l'extérieur de l'ordre sexuel, et c'est sur ça que le livre se penche. Donc, c'est des pensées queer, militantes et universitaires qui discutent ensemble. Je vous en parle un peu plus dans quelques minutes.
OK, on en entend tantôt, et d'ailleurs, je fais un petit Camille en te voyant terminer. On avait aussi vu les parents de Catherine qui viennent de faire irruption dans les studios de CIBL. On les salue, Karine et François.
Mon Dieu. Et finalement, Jessica, salut. Ça fait quelques semaines qu'on t'a pas vue.
Ah oui, j'avais hâte de vous retrouver. Là.
Oui, toi, ton émission balado préférée du moment?
Moi, c'est Captive, un balado animé par Annie Lorrain et Michel Ouellette. Bon, c'est une création des deux aussi. Puis, on revisite, en fait, des mystères et crimes réels québécois et parfois canadiens. J'aime bien ça. Je suis pas fan de films d'horreur dans vie, mais revisiter des histoires un peu trash, là.
Grande fan du true crime.
Ouais, c'est ça. Mais j'écoute pas tout le true crime québécois là, qui se fait dans les podcasts. Il y en a beaucoup, mais Captive, j'aime vraiment comment ils revisitent, là, qu'ils vont faire beaucoup de recherches, aller faire des enquêtes par eux-mêmes aussi, parfois. Bref, j'aime vraiment...
Et c'est disponible où,
un peu partout, je dirais.
Un peu partout, bad au Québec.
Exactement, okay. Oui.
Et aujourd'hui, tu nous parles de nostalgie en culture.
Ouais, comme quoi la nostalgie motive beaucoup le domaine de la culture en général, au niveau des films, de la musique. Si on n'était pas nostalgique, il y a bien des choses qui n'existeraient pas.
Moi, je me tourne vers toi, Catherine. Ton émission radio préférée ou balado?
Moi, j'ai écouté cette semaine « Fais de toi un homme », si j'ai bien le titre. Ça parle des thérapies de conversion. Puis, c'est ça, c'est un recherchiste qu'on connaît bien aussi qui l'a fait.
Exact, Jean-Philippe Proulx, puis c'est réalisé par Jocelyn Lebeau aussi.
Oui, c'est disponible sur audio. Puis, tu sais, jusqu'en 2022, c'est encore légal au Québec de comme faire une... de convertir quelqu'un, sa sexualité, quelqu'un qui n'était pas hétéro. Donc, c'est ça, c'est très intéressant, très actuel. Puis c'est surtout, on pense toujours que c'est aux États-Unis que ça se passe, mais comment ça s'est passé au Québec aussi. Là,
puis je pense qu'il passe ça à Tout le monde en parle demain aussi.
Ah, bon.
Oui, on va être à l'écoute.
On va être à l'écoute. Et toi, Lou?
Moi, instinctivement, comme ça, mon balado préféré, c'est Woke or Whatever. C'est animé par Titi et Beck, c'est deux femmes noires qui parlent de sujets féministes ou reliés à la communauté noire aussi. C'est super. Ils ont parlé de plein de sujets. C'est mes préfs. C'était mes préfs.
Nice.
Inquiétez-vous pas cette semaine. Donc, justement, comme on vous le disait en début d'émission, on n'a pas invité Monique et Suzanne, le vaumatante préférée, méprisante, parce qu'elles ont demandé à avoir une pause. Elles sont fatiguées.
Elles sont sûrement en train de siroter une macération dans leur cave à vin, là. Peut-être à notre honneur. En tout cas, on a invité Marie Chénier, une auteure, compositrice, interprète, qui a sorti son EP en janvier dernier. Puis elle est avec nous en studio. Salut, Marie.
Allô, tout le monde.
Tu vas faire une performance à la fin. Donc, restez pas loin à la maison. Marie, on demande toujours à nos invités, si on oublie le côté géographique, toi, tu viens d'où?
Oh mon Dieu, je viens d'une famille artistique, très ouverte, qui a fait en sorte que j'ai jamais eu de réprimande dans ma créativité et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai sorti Credo.
Ton EP.
Exact. Puis que je baigne toujours. Moi, ça a fini par être la musique, mon affaire.
C'était quoi ton premier souvenir relié à la musique?
Mes premiers souvenirs, ça doit être moi qui écoute mon père jouer du piano. Puis là, écouter, transférer tout ce que je recevais de ça dans la musique que j'écoutais. Puis ensuite... j'ai commencé à taper sur le piano, puis à fredonner. Puis la première fois que j'ai performé, j'étais petite, c'était au primaire, il y avait un talent show. Puis là, j'étais gênée à mort, mais j'ai fait « OK, ouais, j'aime ça chanter, là, dans le fond. » En plus, je m'étais déguisée, puis tout. J'aimais ça jouer une espèce de truc sur scène comme ça, là, un petit rôle.
T'étais déguisée en personnage connu ou juste...
Full pas, je m'étais juste habillée tout en rouge avec une espèce de perruque.
Wow!
Je capotais.
D'où, pour expliquer un peu ton univers musical, emmène-nous dans ton univers musical, notamment dans Credo, cette EP que t'as sortie. Comment t'expliquerais cet univers musical à nos auditeurs, à nous, en fait, en ce moment?
Ben, Écoute, Credo, je l'ai composé. C'est vraiment un super long processus. Là. Ça fait pas très longtemps que j'ai une équipe stable pour pouvoir faire en sorte que la musique devienne vraie puis écoutable puis tout. Mais Credo, je l'ai écrit, mettons, entre 2018 et 2021. Là. Fait que c'était très wow. moi qui devais... Ouais, ça fait longtemps. Ouais, mais wow. ça prend du temps.
Oui,
du temps,
mais c'est vrai. Mais non, pour, ouais, c'est vrai.
La production de musique, c'est bien beau pouvoir composer et tout, mais sauf que pour que ça sorte puis que ce soit bon pour de vrai, ça m'a pris du temps beaucoup. Mm-hmm. Puis donc, c'est un peu moi qui devenais une jeune adulte puis qui prenait tout ce que je recevais de ça puis qui, avec ma sensibilité puis tout, qu'a créé... Credo, c'est vraiment mm-hmm. ça, là. Credo, c'est vraiment moi qui vieillis, je pense. Puis qui devient une jeune adulte, là. Je suis encore jeune, fait que...
C'est un album coming of age?
Coming of age.
Genre, arrivé dans l'âge adulte.
Oui, c'est ça.
La transition.
Exact, ouais. Ben oui. Puis c'est des chansons qui... J'aime bien les traiter comme des histoires. Elles voyagent beaucoup juste dans le EP complet, mais juste chaque chanson en tant que telle aussi, je trouve qu'il... Ça bouge beaucoup, puis mm-hmm. c'était full voulu, là. C'était ça le but.
Tu as dit que tu as grandi beaucoup au travers de cet album-là, en faisant cet album-là.
Oui, mon Dieu.
Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, justement? As-tu eu un obstacle? As-tu eu quelque chose?
C'était pas... Il n'y a pas vraiment nécessairement eu d'obstacle, parce que c'est tellement un long processus que c'est pas comme si ça avait été le projet d'une situation en tant que telle. C'est vraiment la globalité de ce que j'ai vécu entre ces années-là. Puis je crois qu'il y a eu un moment donné où j'ai fait « Wow, OK, attends, j'ai assez de compositions en ce moment que j'aime beaucoup puis qui me tiennent énormément à cœur, qui représentent une certaine période de ma vie aussi. C'est l'heure de le concrétiser pour de vrai. Là. Sinon, ça va aller nulle part. Puis ça aurait été plate quand même. »
Puis Marie, qu'est-ce qui s'en vient pour toi en termes musicalement est-ce que tu écris encore en ce moment?
Oui. Puis j'écrivais. Ah ouais, j'ai un spectacle samedi prochain.
OK.
Ah. Où? À la Casona. C'est un événement avec MTL Nights Out.
Okay.
C'est vraiment cool. Les billets sont encore en vente, si jamais ça vous tente. J'open, en plus. Ben, on est trois artistes.
On va mettre nos billets sur les réseaux sociaux.
Ben, oui. Oh, on va mettre les billets
en bio.
Oh my God, c'est fin. Non, mais ça va être vraiment cool. C'est le 20 avril, samedi prochain. Puis, qu'est-ce qui s'en vient d'autre? On pense faire un double single. Ça, ce serait la prochaine sortie pour moi. Puis après, j'imagine que j'irai vers un autre projet. Là. Je sais pas si ce serait un EP ou un album, mais tu sais, ce qui est cool, c'est que je compose quand même tout le temps. À travers Credo, là, j'ai composé d'autres tunes qui sont pas sorties, évidemment. Faut une chose à la fois, mais donc, j'ai du matériel pour un autre projet.
T'es en
là,
constante écriture, création.
Oh que oui!
Qu'est-ce qui t'habite en ce moment pour écrire?
Je te dirais que j'ai fait un... Je suis allée à l'université en création littéraire, l'année dernière. Ouais, le certificat. Puis là, il y a beaucoup de... Récemment, ce que je fais, c'est que je reprends des textes, des petites phrases de... C'est un projet de poésie que j'ai fait comme mon projet final à l'université. Puis là, je reprends des... C'est un travail cool. Je reprends les phrases, puis je vais essayer de les mettre dans des compositions, tu sais. Il y a souvent des... Au piano, si je commence au piano, des petites mélodies qui me viennent en tête. Fait que, mettons, mettre ces paroles-là sur ces mélodies de piano-là, c'est ça mon prochain travail. Ça va être drôle. J'ai très hâte. T'as déjà commencé un peu.
Oh, wow!
Uh-huh.
Eh bien, écoute, on a hâte. Comme tu disais, justement, on va mettre tes billets là, de Montreal Nights Out pour ton spectacle à la Casona sur nos réseaux sociaux, Marie.
Merci beaucoup.
Ça nous fait vraiment plaisir. Plongeons dans ton univers, justement, dans le tien, en direct des studios de CIBL. Elle nous interprète dans la narrative une chanson tirée de son EP Credo. Voici Marie Chénier.
Quand son corps habite mes chansons, crie à l'unisson, ou sur une peinture métaphorique, dans la poussière elle s'effrite. C'est quoi la suite? On ne savait que vivre dans l'ivresse, dans la narrative. Il y avait chance qu'on soit rangé, qu'on ne dérange plus le silence dans la chambre. Par l'insolence, j'étais n'importe où quand tu m'as retrouvé. Et les pattes d'araignée sur les cils. Écris-moi si c'est moins fragile. Il m'arrive quelquefois de te voir un peu partout. Tu te rappelles m'avoir vissé en toi tel un clou le foutu roi. C'est rarement toi. Nous on est histoire d'entendre moi, je chéris le temps qui est encore entre mes lents, mes droits devant, c'est peut-être encore un peu trop grand. Je m'y promènerai doucement. Nourris l'art, la peine, mon regard au miroir. C'est sans cri, sans froissement ou tracas, et ta dame qui finit pas, sans les fusils qui frayent l'image de trépas. L'envie d'être juste assez pour toi. Oh. Une moi qui consume dans le feu. Je lui fais un sourire piteux. Je lui dis merci pour tout, mais surtout pour les mille filtres de mes yeux.
Marie-Chénier.
Ah, c'est Raphaël Sanson au piano aussi, mon piano.
Bravo, oui, bravo. Raphaël. Wow. On l'applaudit, vraiment.
Hey, c'était bon.
Oui. Merci à vous. C'était trop cool.
Donc là, je vais faire un retour de pause. Donc, vous écoutez Sainte-Catherine Saint-Loup, toujours sur les ondes décibels. On vient d'entendre Marie-Chénier. La radio, que juste au coin de la Place des Arts, là, on a toujours une vue spectaculaire. Mais le sujet de Simon cette semaine l'est encore plus. Surtout qu'il est quand même gros et incendiaire, là, Simon.
oui, bien, initialement, en fait, je voulais parler de gros bon sens, hein, que Pierre Poilievre utilise beaucoup. je voulais voir sérieusement, parce qu'en philo, on a la notion de sens commun, qui est surtout utilisée en philo-éthique, philo-morale. Puis je voulais voir, est-ce que c'est de ça qu'il parle? Malheureusement, Thomas Gauthier, le vidéaste québécois, m'a devancé et il a fait une vidéo sur le gros bon sens que je vous
c'était
encourage.
C'était lui ou Émile Roy, hein, t'avais vu.
Mais ça m'a néanmoins pisté vers mon sujet d'aujourd'hui, ceux qui parlent pour tout le monde ou la démocratie nous prend-elle pour des imbéciles? Puis l'idée précisément m'est venue d'un extrait de notre premier ministre canadien qu'on va entendre tout de suite.
Parce que les citoyens s'en foutent de quel ordre de gouvernement est responsable de quoi. Ils veulent juste que leur loyer soit abordable, que leur épicerie coûte pas trop cher, que leurs enfants soient en bonne situation pour pouvoir réussir.
Il y avait un bébé à la conférence de presse.
Ça parle des enfants, mais gens
oui, mais il y a plus Sophie Trudeau, là, fait qu'il faut qu'il s'occupe des enfants.
Je
suis pas fine, hein, Seigneur. Excuse-moi. Continue, Simon.
Dans cet extrait-là, il y a plusieurs choses. Hein. Puis moi, ce que je trouve intéressant toujours avec des déclarations comme celle-là, c'est d'essayer de voir qu'est-ce que politiquement, qu'est-ce que philosophiquement, mm-hmm. ce discours-là colporte. Hein. Puis il y a deux choses principales qui m'ont marqué. Premièrement, ça semble très matérialiste, très terre-à-terre hein, quand même, mm-hmm. ce qui n'est pas nécessairement quelque chose qui serait supposé me choquer, moi, ayant souvent des analyses très proches là, du marxisme ou de d'autres philosophies qui sont peut-être un peu plus à terre, qui essayent d'aller voir le vrai monde dans leurs vraies conditions. Mais il y a autre chose, parce qu'effectivement, les gens ont des choses plus importantes à gérer que des chicanes de gouvernement. Mais ce que je pense que politiquement ça sous-tend, une déclaration comme ça, c'est que un peu, ça représente parfaitement une rhétorique classique qu'on retrouve dans le libéralisme politique, celle du peuple ignorant, du peuple irrationnel, finalement, du peuple qui est incapable de se gouverner lui-même. Puis, si je le répète, c'est quand même un des fondements importants des démocraties modernes, c'est-à-dire des démocraties libérales. Mais là, la question, c'est à savoir un peu depuis quand on porte ça. Parce que je parle de libéralisme politique, mais je pense qu'on peut... je vais vous présenter qu'on peut vraiment aller plus loin, chercher les origines de tout ça. Entre autres, dans la République de Platon. Dans le livre 8 de la République, c'est assez connu, Platon essaye de développer un petit peu comment sa cité idéale pourrait fonctionner. Mais pour Platon, le peuple, les producteurs de la cité, étant donné qu'ils travaillent et qu'ils n'ont donc pas le temps de philosopher et de penser, sont guidés par la doxa, c'est-à-dire par l'opinion, par non pas nécessairement quelque chose de rationnel, mais quelque chose qu'ils pensent sur le monde.
Et donc, qu'est-ce qui se dit dans l'actualité ces temps-ci?
C'est ça, ce qu'on va leur dire. Parce que, de un, ça les rend justement facilement manipulables. Mais de deux, c'est prendre pour acquis que ces gens-là sont incapables de raison. Conséquemment, ils ne peuvent et ne devraient pas diriger. Finalement, pour Platon, la démocratie est un des pires systèmes politiques pour lui à cette époque-là. Il y a des auteurs qui ont avancé que peut-être que Platon était si critique de la démocratie parce que c'est elle qui avait fait tuer son maître, Socrate, ce qui est quand même une hypothèse plausible. Mais reste néanmoins que cette pensée-là, elle est intéressante parce que ce qu'elle avance, c'est... une espèce de situation où on va voir émerger deux sujets politiques. Tu as, chez Platon, les rois philosophes ou les reines philosophes, là, d'ailleurs, mais finalement, ceux qui savent diriger. Et tu as le peuple, ce bloc monolithique profondément imbécile qui agit en groupe et qui est donc considéré comme individu seulement en groupe.
Donc, pas d'individualité.
Ben, pas encore. Puis même s'il y en avait, le peuple, comme forme politique, comme sujet politique, a tendance, chez Platon, à se... À former un agrégat.
Devenir un
groupe qui ne parle qu'en groupe. Et c'est pour ça que cette espèce de forme anomique, politique, sans but, un peu qui finalement ne réfléchit pas, ne pourrait pas diriger.
La classe moyenne, comme on dit souvent. C'est ça.
Puis, tranquillement, mais sûrement, ça va devenir cette espèce de figure du souverain éclairé. Hein? Cette espèce de... il y a d'un côté ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. La masse ne sait pas par définition. Et bien que d'autres penseurs dans l'histoire de la philo-politique vont penser autre chose, Aristote, entre autres, là, ado un peu frustré qui remet en question toutes les thèses de son professeur, mais des idées similaires vont dominer hein, le paysage philosophique, politique des siècles qui vont suivre. Et particulièrement, en fait, même lorsqu'une pensée qui pense l'individu va émerger, la philosophie libérale au 17e ou 18e siècle. Et il y a cette espèce de tiraillage hein, chez les libéraux entre la liberté de l'individu puis les possibilités du pouvoir. C'est-à-dire qui dirige puis comment il dirige si on considère que la liberté de l'individu est totale. Ces réflexions-là, ils vont être importantes pour des gens comme Thomas Hobbes, par exemple, qui va penser, vous le savez peut-être, le Léviathan de Thomas Hobbes, qui est cette idée que le roi, ce souverain absolu...
Juste et bon, d'ailleurs.
C'est ça, là. Juste et bon, agit inévitablement... en fait, il agit au nom de ses sujets. C'est le début d'une représentation politique. Le peuple est ici... concède sa liberté, concède son pouvoir politique, mais finalement, quand le roi décide, c'est aussi le peuple qui décide. Donc, encore une fois, on voit comment le peuple est considéré un peu comme un bloc. D'une façon un peu similaire, mais bon, on approche de plus en plus des républiques comme on connaît aujourd'hui, là. On peut prendre Montesquieu, hein, qui est très important pour la manière dont on pense le pouvoir, la séparation des pouvoirs, entre autres, puis le fonctionnement, finalement, de nos démocraties. Bien que le peuple soit plus présent, puis qu'il y ait une notion de souveraineté du peuple chez Montesquieu, le peuple de Montesquieu, il est apte à élire qui fait les lois, mais pas les appliquer. Puis la raison pour ça, c'est parce qu'il y a un danger d'une égalité trop extrême. Puis pour ça, je vais vous citer un texte de l'Esprit des lois de Montesquieu dans lequel il développe ça. Il va dire que l'égalité ne consiste point à faire en sorte que tout le monde commande à ses égaux. Il ne cherche pas à n'avoir point de maître, mais à n'avoir que ses égaux pour maître. Mmh. Fait que pour Montesquieu, ce qui est important, c'est pas tant ce qui permet la représentation, comme on l'avait dit plus tôt, mais ce qui distingue les représentants de ceux qui les élisent. Il faut qu'il y ait une inégalité entre le peuple et ses représentants si on veut que la représentation soit adéquate. Fait que pour le rapporter à Hobbes, l'égalité est vue ici dans la même manière que l'étaient vus les individus sans Léviathan, les dirigés sans dirigeant, le peuple, lorsqu'il n'est pas constitué en tant que peuple. Fait que la contradiction tout à l'heure revient de plus belle, hein, cette espèce de contradiction-là entre comment on fait pour penser l'individu versus le peuple. Si l'individu peut décider, mais que le peuple ne peut pas décider, comment on lit ça?
Comment on s'arrange?
Ouais. C'est ça. Puis, d'après moi, un des philosophes qui a peut-être répondu à cette question-là, puis qui a répondu finalement à la question d'inégalité au sein du politique, c'est Jacques Rancière, un philosophe français qui est né en 1940. C'est un philosophe post-structuraliste qui va enseigner à l'Université de Vincennes, aujourd'hui Paris 8, hein, qui il va enseigner avec et étudier avec...
Il est encore en vie?
Oui, il est encore en vie. Foucault, Badiou, Lyotard, Deleuze, bon, des noms qui peuvent peut-être vous dire quelque chose. Il étudie avec Althusser, mais il va se distancer de son maître un peu plus marxiste pour avoir une pensée sur la démocratie puis sur la politique qui est différente. Entre autres, il avance qu'on est gouverné avec la présupposition d'une inégalité des intelligences. Comme on le revient tantôt, il y a ceux qui peuvent diriger, puis il y a les autres. Et dans Le Maître ignorant, qui sort en 1987, Rancière va reprendre les idées d'un pédagogue du 18-19e siècle, Joseph Jacotot, qui va défendre que le problème, c'est pas que les gens manquent d'intelligence, mais qu'ils n'ont pas confiance en leur intelligence qu'ils ont. Fait que l'idée ici, c'est de moins voir l'éducation comme une instruction, mais comme une émancipation. Puis là, on revient à ce que je disais au début. Hein. Quand je dis « la démocratie nous prend-elle pour des imbéciles », c'est parce que j'ai l'impression, puis c'est ce qu'avance Jacques Rancière, que les démocraties actuelles considèrent qu'il y a une inégalité fondamentale des intelligences et qu'il y a donc ceux qui peuvent diriger et qui doivent, et ceux...
Ben, c'est même
pas.
Dans la candidate, c'est un peu cette prémisse-là philosophique, cette candidate qui... la série technicienne de pose donc, qu'est-ce que tu fais dans le salon bleu? Peux-tu vraiment diriger? T'es-tu vraiment intelligente?
T'es maquillée, peux-tu vraiment?
C'est ça.
Je pense qu'on pourrait penser la pensée de Jacques Rancière en l'ajoutant aussi à un autre de ses livres, qui est La haine de la démocratie, qui est sorti en 2005, où il avance que... en fait, où il critique l'idée selon laquelle la démocratie serait menacée par elle-même. Comme on a vu, là, c'est un peu... problème fondamental que le libéralisme arrive inévitablement. C'est comme une contradiction interne. Puis, d'après ses détracteurs, finalement, la démocratie est bonne lorsqu'elle est pensée par la représentativité et mauvaise lorsqu'il y a réellement des processus de décision collective. Parce que la démocratie générait de l'individualisme ou autre. Mais donc, pour Rancière, le cœur de la haine de cette démocratie-là réside dans l'idée qu'il n'existerait pas de titre pour légitimer la gouvernance. Fait que pour Rancière, finalement, là, pour compléter, là, un petit peu, là, terminer rapidement, bien, la vraie démocratie, c'est quand on va penser qu'il n'y a pas de titre qui légitime la dite gouvernance. Puis quand Trudeau nous dit que les gens s'en foutent, quand Legault nous dit qu'on devrait changer d'attitude parce qu'on ne comprend pas ce qui est bon pour le Québec, c'est d'autant plus d'exemples qui démontrent que nos politiciens s'incrustent dans cette rhétorique libérale comme quoi eux savent quoi faire, puis nous, non.
Et s'exclut aussi avec la population disant ça, le se mettre sur un point d'égalité différent. Merci, Simon. On vous laisse pour une courte pause, mais tout de suite après, Camille nous parle de sexualité et dissidence queer. On se retrouve dans quelques instants au 101.5 CIBL.
Depuis plus de 30 ans, le journal mensuel Écho Montréal est le fier porte-parole de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle au cœur de Montréal. Distribué gratuitement et rejoignant 200 000 lecteurs, Écho Montréal est aussi un véhicule publicitaire polyvalent en répondant efficacement aux besoins de différents annonceurs, comme dans l'immobilier ou tout simplement pour y afficher avis public ou services professionnels.
À lire ce mois-ci dans Écho Montréal. Entrevue exclusive avec Paul Saint-Pierre Plamondon, les gagnants du concours Le français, une langue qu'on aime, un système de corruption syndicale et en édito, une volte-face politicienne.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à ecomontréal.com ou à composer le 514-844-2133. 514-844-2133.
Un bail, je peux-tu changer ça? Et cette photo, est-ce que je peux la mettre sur mes réseaux? Puis le casier judiciaire, c'est-tu pour la vie?
Chez Éduquer la loi, on sait que la loi, c'est pas facile à comprendre. Des nuances, il y en a, mais des réponses à tes questions, il y en a beaucoup aussi.
Avec Angle Droit, on vous aide à y voir plus clair. Il est temps d'arrêter de tourner les coins ronds, parce que vos droits sont importants.
On se donne donc rendez-vous tous les mardis de 11h à 11h30 sur CBL 101.5. Parce que savoir, c'est pouvoir.
Me semble que tu serais dû pour changer ton climatiseur pour une thermopompe qui consomme moins d'électricité.
Ah, moi, changer pour changer.
Hey, c'est tout un changement. Surtout avec le nouveau programme Logiver d'Hydro-Québec.
Ça change quoi?
T'as droit à de l'aide financière pour des mesures d'efficacité énergétique. Moi, j'ai obtenu 6 700 pour ma thermopompe efficace. Ça te change un budget.
Ah. Puis ça te change une ambiance aussi.
Économisez argent et énergie avec le nouveau programme Logiver d'Hydro-Québec.
De retour à Sainte-Catherine-Saint-Loup, au coin Sainte-Catherine-Saint-Laurent, CCIBL 101.5, la seule radio qui s'est permis la fabuleuse Camille Sébastien en onde. Yeah. Je l'avais dit que je fais une girl sur toi à chaque semaine.
C'est vrai, c'est tellement vrai. En même temps, il faut dire que j'ai vraiment une émission à CISM, mais c'est pas grave. Là.
Oui,
on n'est pas obligé d'en parler.
C'est correct, double micro, plus de femmes au micro, on aime ça. Alors, sexualité et dissidence queer, Camille.
Ben oui, allô Lou, allô Kat.
Allô.
Cette semaine, je vous parle d'un livre. Excitant! OK, c'est donc Sexualité et dissidence queer, tout au pluriel. C'est un ouvrage collectif dirigé par Chacha Henriquez, qui est sociologue et qui est aussi militante. Qui est aussi prof du cours Sociologie queer à l'UQAM, un cours qui est toujours plein, ça vaut vraiment la peine. Et donc, le livre est paru aux éditions Remis Ménage.
Ouais.
Hey, je vais réussir à partir, OK? On va se lancer, puis on va être, une fois qu'on va être parti, ça va être le fun. Donc, le 25 mars dernier. Bon, déjà, il faut dire que personnellement, j'étais très excitée par ce sujet. Il faut dire que ça rentre tout à fait dans mes cordes. Le projet s'est développé à partir d'analyse queer des sexualités, donc. Et l'objectif de l'ouvrage, c'est de créer un dialogue entre les groupes militants et les universitaires qui vont, dans le fond, unir leurs forces, leurs analyses et leurs résistances, tout le monde ensemble. C'est une démarche que je me dois de souligner parce que comme étudiante en sciences politiques, j'en ai lu des livres de sociologues, de philosophes, de penseuses politiques dans des jargons, ma foi, fortement, des fois inaccessibles, ouais. Oui. Et c'est comme un jeu qui est joué pour pouvoir être publié. Il faut que tu utilises des gros mots. Même Judith Butler entre dans... Ben, je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de lire Judith Butler.
Qui c'est l'enfer.
Sociologue queer et qui... Yel aussi, je pense.
Yel, ouais.
Yel aussi utilise donc cette tactique-là pour être reconnu comme une vraie personne intelligente et pensante. Mais donc ici, c'est intéressant parce que plutôt que d'être dans un jargon super inaccessible, on a décidé de créer un pont entre les militants, les militantes et les universitaires. Puis ces auteurs vont donc décomplexifier les sujets. C'est donc très agréable de constater que les collaborateurs, collaboratrices... font ça parce qu'il faut reconnaître que le mouvement queer vient aussi de base et non de l'université. C'est le militantisme queer qui a permis qu'il y ait des études queer et non les études queer qui a permis aux gens d'être queer.
Oh, ben c'est pas l'académie qui a commencé
mais
ça.
Exact.
Il faut dire aussi que Remue Ménage, c'est un peu leur credo. Là, je replug Marie. Nice. Mais c'est un peu leur credo, ce genre de pont-là. Des essais très, quand même académiques, mais avec un... Qui fait ce pont-là dont tu parles.
Qui sont accessibles.
Ouais. Accessibles.
C'est tellement important. Donc là, je réalise, je parle du mot queer depuis le début de ma chronique. Moi, on m'a nommée comme la collaboratrice féministe et queer, mais on n'a jamais pris le temps de définir le mot queer.
Oui,
un autre mot dans le dictionnaire, Camille.
Donc, c'est le moment où on définit un nouveau mot.
On va faire un jingle
mot.
Aussi.
Ah, ça serait bon, hein, juste pour le mot, le moment où je définis un mot.
Oui, exact.
Ce serait vraiment pas pire. Donc, il faut savoir que c'est un mot qui était d'abord, comme vous le savez peut-être, là, la plupart des gens le savent, ça vient de l'anglais queer qui veut dire bizarre, étrange. C'était donc utilisé comme une insulte et c'est un mot qui a été réapproprié par les communautés queer qui voulaient l'utiliser pour elles et eux. Donc, ça peut être utilisé à la fois comme une identité. On peut s'identifier comme personne queer, donc membre de la, de la communauté 2SLGBTQIA+. Ou aussi, ça peut être utilisé dans le cadre, comme dans le cadre de l'ouvrage, comme un projet politique qui vise à analyser, là, tu sais, dans le cadre de l'ouvrage, c'est vraiment à analyser les rapports de pouvoir régulant les sexualités, les genres, les corps sexués, ainsi que leur imbrication dans d'autres rapports de pouvoir afin d'y résister. En gros, là, ce que ça veut dire, c'est que queer, ça peut aussi être une façon de se présenter dans le monde politique. Mmh. Donc, de okay. résistance par rapport aux normes. Mmh. Maintenant qu'on sait ça, parlons du livre. Avant toute chose, je dois confesser, j'ai pas lu les 450 pages du livre en une semaine. Je ne suis pas une lectrice si rapide, mais je tenais quand même important de prendre le temps de vous mettre en contexte les différents sujets qui seront abordés. Je pense vraiment que c'est un ouvrage super pertinent que vous fassiez partie de l'ordre sexuel, donc de la majorité des gens ou pas. C'est des sujets qui vont vous intéresser.
Ah, là, t'as mentionné un nouveau mot, dictionnaire de Camille. C'est quoi un ordre sexuel?
Mais donc, l'ordre sexuel, c'est la première question qui est répondue dans le livre, d'ailleurs, c'est, dans le fond, tout ce qui est normatif. Ils vont se baser dans le livre sur la sociologue Gail Rubin, qui a défini dans le livre « Penser le sexe », un cercle vertueux de la sexualité. Donc, ils l'ont vraiment mis en forme de sexe, de cercle, au centre du cercle. Tous les comportements qui sont au centre du cercle, comme dans une petite tarte, là, c'est les comportements qui sont vus comme normaux, acceptables, bien. Donc, petites part de tarte-là, on va retrouver la monogamie, l'hétérosexualité, la monosexualité, la sexualité vanille, la sexualité gratuite. Tandis que dans le deuxième niveau du cercle, celui qui est plus loin, en fait, du centre, donc qui va se retrouver aux extrémités, en marge même, on va retrouver les comportements qui sont pas acceptables, même des fois pathologisés ou criminalisés.
C'est drôle parce que Monique Wittig a sorti un livre qui s'appelle « Les guerrières » dans lequel d'abord, dans le roman, on utilise juste le pronom « elle ». Qui confond même les hommes puis les femmes. Puis il y a toute cette figure du cercle aussi qui pourrait rappeler ça un peu.
Mais puis peut-être qu'elle s'en est inspirée aussi.
Peut-être
je sais pas
aussi.
Si, ben, si c'est dans les mêmes années. Parce que là, on est dans 1990. Là, je sais
non, c'était avant quand même.
C'était avant. Mais, donc,
mais c'est une précurseur.
Puis peut-être que Gail Rubin s'en est inspirée aussi. Comme tout le monde s'inspire de tout le monde dans les communautés féministes queer. Donc c'est vraiment le fun. Donc tu vois, à l'extérieur du cercle, justement, par rapport au contraire de la monogamie, on a le polyamour. Au contraire de l'hétérosexualité, on a l'homosexualité. Au contraire de la monosexualité, on a les bisexualités. Donc, le fait de, en plus là, d'être homosexuel, on voudrait changer d'idée à tout bout de champ. Voyons donc. et ensuite... Hey, je m'emporte. Au contraire de la sexualité vanille, on va avoir le BDSM. Et au contraire de la sexualité gratuite, évidemment, le travail du sexe à proscrire. Évidemment.
On veut pas
à l'extérieur
parce
de la
tâche. Comme quelqu'un de très intelligent sur TikTok me dit, si on commence à écouter les voleurs, on va décriminaliser le vol et ça, ce serait tout à fait mal. Donc, pour
mettre
je vous mettrai même pas en contexte. Allez écouter le dernier épisode. alors, donc, les comportements qui se retrouvent dans le deuxième sexe, le deuxième cercle, sont bannis. Évidemment, il y en a certains qui sont plus acceptés aujourd'hui, comme l'homosexualité a fini par être est plus accepté aujourd'hui, mais là, c'est la bisexualité qui devient problématique, la transsexualité. Il y a toujours quelqu'un qui se retrouve à plus à l'extérieur que l'autre, tu sais, qu'il faut rejeter. Donc, cet ordre sexuel-là, dans le fond, il permet la construction d'un contrôle social en suivant un système de sanctions et de récompenses, en valorisant les comportements attendus et en punissant ceux qui ne sont pas attendus. Ce contrôle social-là se fait d'ailleurs dès le plus jeune âge, à travers l'éducation ouverte aux enfants, les séries télé qu'on leur présente, leurs jouets, tout ça. Et ce contrôle de l'ordre social invisibilise donc certains comportements et formes que les enfants ne peuvent plus reproduire après pour pas qu'ils deviennent des citoyens pas désirable, donc. Mm. Ce contrôle peut aussi être façonné par l'intimidation, évidemment, on le sait. L'intimidation des personnes qui, justement, seraient gays, lesbiennes, tout ça, des enfants trans, l'intimidation qu'on vit à l'école, les petits garçons qui pleurent, tout ça, ça répond pas à l'ordre normatif sexuel. Donc, ce qui sort du cadre normatif, on n'en veut pas. Cette intimidation-là passe, entre autres, par entre autres, le slut-shaming chez les femmes pour contrôler le nombre de partenaires sexuels que les femmes pourraient avoir, la sursexualisation des jeunes hommes qui devraient tous vouloir coucher avec tout le monde, alors que pas nécessairement, tu sais. Et la pression de la respectabilité, donc le fait que si des jeunes femmes portent des jupes très courtes, elles peuvent se faire agresser. Là, c'est toute la culture du viol qui vient ici. Puis là, pourquoi c'est important de rester à l'ordre sexuel, vous me direz? Peut-être que moi, je suis bien confortable dans mon hétérosexualité cis-normative.
C'est correct, ouais.
Puis c'est correct. Mais d'abord, évidemment, c'est pour protéger les minorités sexuelles. Parce que même si nous, personnellement, on n'en fait pas partie, il y a certaines personnes qui sont énormément réprimées. On a juste à penser au SIDA dans les années 80, de comment les personnes gays étaient traitées à ce moment-là. Là, il y a beaucoup de droits qui ont été acquis par les gays et les lesbiennes à travers le temps, donc le mariage entre personnes de même sexe, l'homoparentalité, tout ça. Mais là, on a dû faire sortir quelqu'un d'autre. Donc, on a sorti les personnes trans. Et là, on l'a vu dans les derniers mois, dans les dernières... Bien, principalement dans les derniers mois, là, la genre de recrudescence contre les personnes trans.
Le documentaire que tu as parlé.
Exact, le documentaire dont j'avais parlé, des gens qui n'ont pas aimé leur transition. Et c'est vu comme
trans
si
express,
tous les enfants, tous les adolescents qui veulent... réfléchir à une transition n'aurait pas le droit de le faire. Donc, tous ces sujets-là viennent donc réprimer d'autres personnes qui sont encore pas bien dans notre société. Donc, l'idée, c'est, à travers une multitude de sujets, le livre va nous permettre de réfléchir à toutes ces dissidences sexuelles-là, puis tout ce qui sort de l'ordre sexuel, pour voir que, dans le fond, c'est plein de personnes qui ont juste besoin d'être confortables dans la société et qui ont des bonnes raisons de le faire, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on part de l'idée de l'ordre sexuel, quand on part de l'extérieur, ben on comprend les choses différemment. Donc, on va parler de bisexualité, de fluidité, de polyamour, de relations non monogames, la culture du consentement, le BDSM, la sexualité et le romantisme, l'éducation à la sexualité positive et inclusive, le sexting, la consommation, la pornographie, le travail du sexe, le cruising gay et le backlash hétéro-cis-normatif.
D'ailleurs, il parle de Joël Legendre dans le chapitre de cruising gay.
Ah oui, ben là, j'ai hâte, je me suis pas encore rendue là. Mais donc, j'ai bien hâte de le lire. Mais c'est ça. Puis je pense que ce qu'il faut retenir de ce livre-là, c'est que vous vous identifiez à un des sujets que je viens de nommer, que vous voulez en apprendre plus, ou juste si, par moment, vous ne vous sentez pas confortable dans cet ordre sexuel-là, il existe tellement d'autres univers sur lesquels on ne s'est pas fait éduquer. Puis c'est ça que le livre invite à faire, c'est pouvoir en apprendre sur des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne nous a pas apprises préalablement. Donc, c'est vraiment... Ça se fait autour de certaines valeurs. Je trouve que c'est vraiment beau de se penser comme ça. Donc, c'est une liste de valeurs sexuelles au cœur de la résistance queer. Donc, tu sais, c'est l'exploration de la curiosité, de l'expérimentation, l'affirmation de ses plaisirs et ses désirs et de ses limites aussi, parce que ça vient aussi avec des limites, des désirs et des plaisirs, l'agentivité sexuelle, la liberté de choix. Donc, les gens ont la capacité de prendre des décisions par rapport à leur sexualité, puis il faut le reconnaître. La banalisation aussi de la sexualité, de sortir du tabou peut-être, puis de revenir dans un caractère ludique de « ça peut être un jeu, la sexualité ». Et des fois, c'est bien que ça soit vu comme ça. La renaissance de la diversité des parcours sexuels, de leur fluidité, ça se peut qu'on commence notre vie dans des normes hétéronormatives et qu'on soit confortable dedans et qu'éventuellement, on veut le changer. Ça se peut que quand on commence notre sexualité, on soit gêné, puis qu'ensuite... ça évolue. Ensuite, on a la résilience et la combativité, la relativisation des normes et des valeurs et évidemment l'inclusivité et l'intersectionnalité parce qu'on ne s'en sort pas. Tous les mouvements sont intersectionnels. Les oppressions sont vécues de manière différente en fonction des privilèges et des oppressions qu'on vit donc déjà. Donc, je vous invite vraiment à lire le livre « Sexualité et dissidence queer » de... coordonnée par Chacha Henriquez et publiée aux éditions Remus Ménage.
Exact.
Voilà. Si vous apprenez tout ça dans le cours, dans le fond, c'est le cours de sexualité qu'on n'a pas eu à l'école.
Mais je pense que oui, pour vrai. Je trouve, le fait que ça soit écrit
on
dans un langage... Mais donc, je vous invite vraiment à lire puis à vous renseigner sur des choses qui pourraient vous faire plaisir et comme... aborder votre sexualité autrement.
Ouais. Merci Camille. On va mettre le lien pour acheter le livre dans nos réseaux sociaux « Sexualité et distance queer » de Chacha Henriquez. C'est par les éditions de Remus Ménage. On vous amène dans un nouvel univers avec l'habitude de Rose, un duo qui vient tout juste de sortir son premier album.
À quoi tu penses? silence, accroché sur la caméra. Revue l'été, on dit où ce qu'on vous trouve, la ligne est fine, ouais. Si c'est pas toi, j'ai pas envie de personne. Si ça te tente, on peut se voir à chaque mois, à chaque fois que ça t'adonne. J'essaye, je te jure, mais j'ai pas encore l'habitude. J'ai peur, peur, peur de te perdre, mais j'ai pas encore l'habitude. Je pense pas encore que je t'aime, mais je peux faire la vie dure. Arrête, s'il faut se parler comme ça, te vouloir, on fait des plans que pour toi. Oh non, mais j'ai pas encore l'habitude. Facile d'être seule si t'as jamais manqué d'amour. Si tu t'étends, cause dès que ça dérape, que tu veux partir à zéro. C'est pas grave, c'est fini, mets-toi là. J'irai pas faire le tour de l'île pour me faire crisser le cet hiver, non. J'ai des missions, et à côté sur le mur, en chaîne de fusil, pas le mal. Je pourrais m'y faire, c'est sûr, mais j'ai pas encore l'habitude. J'ai peur, peur, peur de te perdre, mais j'ai pas encore l'habitude. Parler comme ça, te voulais voir, on fait des plans que pour toi. Mais j'ai pas encore l'habitude. J'ai pas encore l'habitude, non. Je veux pas te faire la vie de... J'ai pas encore l'habitude. Mais je veux pas te faire la vie de...
De retour sur les ondes de CIBL 101.5. Vous écoutez toujours Sainte-Catherine-Saint-Loup, là où l'émission où on rit parce qu'il n'y a pas d'aller puis de retour de pause. Hein?
Surtout Jessica.
Surtout Jessica.
Jessica qui danse en ce moment.
C'est ton time to shine. Oui. Donc, je ne sais pas comment on peut dire ça, time to shine en français.
C'est le temps
ton
de
moment de gloire.
Le fils de la langue française va nous chicaner. Là,
bon,
mais en parlant culture populaire, Jessica, mais...
Ouais.
Nostalgie de culture.
Oui, OK. Puis là, je vous avertis tout de suite, là, j'ai une voix là, aujourd'hui qui n'est pas égale à mon habitude.
Pour vrai, mais, on t'en veut beaucoup. Là.
Ah, je sais, c'est pour ça que je vous avertis, là, je veux que vous m'en vouliez. Moi, je suis quelqu'un dans la vie de très nostalgique. Je ne sais pas si vous l'êtes aussi.
Moi, oui.
J'ai des vagues de nostalgie. Ouais.
OK, c'est
ça,
comme,
ça passe.
OK, c'est bon. c'est ça. Moi, m'asseoir avec mes amis de secondaire, parler des bons moments qu'on a eus, réécouter les chansons aussi qui ont marqué ma jeunesse, hein, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'écouter du Jodassin puis de chanter comme mon père le faisait à tue-tête dans la maison quand t'es enfant. Tu sais, c'est des moments comme ça. Déjà là, vous êtes... J'ai retenu votre attention.
Nostalgie pour toi. Là.
Exactement. La nostalgie qui, de nos jours, est considérée comme un sentiment de regret des temps passés ou de lieux disparus ou devenus lointains, auxquels on associe des sensations agréables. Puis là, en faisant mes recherches, je suis tombée des nues. Bon, j'ai utilisé une belle expression.
Bravo! Yes!
On a défini cette expression-là. On veut dire bon, d'où elle vient?
C'est à Jessica!
J'ai vraiment été chercher d'où elle vient, mais là, j'ai pas assez de temps pour vous expliquer, donc vous ferez vos recherches. En 1668, quand le mot nostalgie est apparu pour la première fois, c'est un étudiant en médecine qui publiait une thèse dans laquelle il décrivait la nostalgie comme étant un état maladif. À l'origine du mot, on l'associe même aux notions de retour, évidemment, et de douleur. Je m'éloigne quand même un peu du sujet, là, mais je trouve ça fascinant d'imaginer qu'à l'époque, quelqu'un qui se remémorait des moments de son passé, bien, on mettait ça dans la catégorie maladie mentale.
Wow!
Faut le faire.
C'est pas la première chose qui s'est retrouvée dans le DSM, par contre. Hein?
Exact. Plus récemment, ça a changé quand même le discours. Là. En 1995, la psychologue Christine Bacho, connue pour ses études sur la nostalgie, a découvert que les personnes sujettes à la nostalgie stratégies, excellent dans le maintien des relations personnelles, puis choisissent des moyens sains pour faire face à leurs problèmes. Je suis rassurée. Je veux dire, ça ne me sert pas à rien d'être nostalgique. Je suis saine. Elle a développé la Nostalgia Inventory Test. Ça, c'est un test qui mesure la fréquence à laquelle vous êtes nostalgique, puis à quel point c'est intense votre affaire ou non.
Oh, c'est un test qu'on peut faire en ligne.
Exactement.
On va aller le faire.
Ouais, on va vous le partager. Puis, on parle de thèmes, entre autres, de la famille, les amitiés, l'école, la manière dont la société était auparavant. Donc, on peut identifier les choses qui nous rendent nostalgiques. Puis là, ma gang de snowro, là, je vous l'ai déjà partagé. Je vous ai demandé de pas nécessairement faire le test, mais peut-être d'identifier des thèmes auxquels vous étiez nostalgique. Est-ce que vous en avez quelques-uns là, qui ont attiré votre attention?
Oui, j'y pense un peu, mais
moi je l'ai faite.
Oui, tu l'as fait.
Moi aussi, je l'ai faite.
Ah, j'adore.
Mais moi, je pense que je crois beaucoup à la nostalgie des odeurs, là, comme la Madeleine de Proust. Là, tu sais, là, il y a comme les odeurs de comme ton enfance, puis tout ce qui est lié à ça. Quand je ressens encore des odeurs, mettons, dans le camp de vacances où j'ai été enfant et auquel j'ai travaillé, il y avait une odeur dans la cuisine qui venait de l'espace, qui était vieux, en fait. Là. Mais donc, des fois, quand je rentre dans des vieux bâtiments, je vais sentir cette même odeur-là.
Oui,
et ça me remet là, comme si j'avais 8 ans encore. Et ça, c'est magnifique,
ça,
les odeurs.
Ça, c'est moi quand
je
vais chez ma mère. Peu importe, ce qu'on fait, quand je vais chez ma mère, je suis nostalgique. Son odeur, mais moi, c'est l'odeur à ma mère. L'odeur à ma mère, c'est Madeleine de Proust. Là, en plus, elle m'écoute puis elle m'écrit sur WhatsApp en ce moment même. Fait qu'elle va m'écrire dans deux minutes.
Bonsoir.
Allô, Luciana. Mais moi, c'est comme son odeur, c'est Madeleine de
Proust. Moi, je pense que c'est retourner dans des lieux. Quand je suis, j'ai grandi en campagne de Québec. Une partie de mon enfance Shannon, Valcartier, sur la base militaire. Et moi, je pense que c'est retourner dans ces lieux. T'es comme, on dirait que tout est plus petit. T'sais, comme, moi, ça, c'est de la grosse nostalgie. Là.
Toi, Simon?
Moi, je pense que c'est plus comment je m'imagine que je pensais à l'époque. T'sais, je suis très, très, c'est ça, des espèces de nostalgie de comment je voyais le monde un petit peu, de l'impression de ne plus être capable de voir le monde comme je le voyais quand j'étais jeune.
Avec l'émerveillement.
Ça me rend très nostalgique.
Ben, toi, Jess?
Moi, toute la liste m'interpellait, là, pour être bien honnête.
Une vraie nostalgique.
Oui, exactement. Là, tu l'as dit dans la liste, on a est en anglais la liste que j'ai, not having to worry. Donc, la manière dont on n'avait pas à se soucier de rien plus jeune, les amis, les choses qu'on a faites par le passé qui nous ont marqués. Par exemple, moi, quand je suis allée au Manitoba pendant un été, j'étais assez nostalgique de ce moment-là. Mais là, vous vous dites, c'est la chronique culture pop. Donc, c'est sûr que ce qui a attiré mon attention aujourd'hui et pourquoi je vous parle de ça, ce sont les thèmes des films, des séries télé, de la musique et même des vacances. Là, je mets des gros guillemets parce qu'en anglais, c'est « holidays », donc plus les congés fériés en français. Donc, Noël, Pâques, Thanksgiving. Déjà, en ce moment, on pense à ça puis on a des référents culturels face à ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'époque moderne, on associe maintenant autant la nostalgie au système capitaliste. Oui, je parle de politique.
Pas le mot en C. On le prononce pas assez dans cette émission.
Attends, je vais le redire tantôt.
On l'avait pas dit encore aujourd'hui.
Non, on l'avait pas dit.
Oui, c'est surprenant venant de vous deux. Là.
C'est surprenant venant de moi.
Oui, là, c'est
venant,
c'est ça.
C'est en jasant avec mon coloc que je me suis rendu compte que la culture populaire d'aujourd'hui, c'est un peu comme une reformulation de la culture populaire des dernières époques. Un peu comme la mode qu'on recycle. On salue d'ailleurs le retour des ballerines qui bossent son plein en ce moment dans les magasins.
J'en reviens pas.
Moi non plus. Donc, les grands acteurs de la culture populaire se servent de notre côté nostalgique pour produire du contenu qui va vendre. Le pire, c'est que j'aimerais vous sortir des exemples nichés qui... Mais non, les exemples nous sautent aux yeux. Je parle, entre autres, en 1984, le premier Ghostbusters qui sortait. 40 ans plus tard... Il y a quelques semaines, cinquième film de la franchise, le cinquième, et il y a deux séries qui ont fait par rapport à ça. J'en ai plein d'exemples, là. Attendez, vous n'êtes pas prêts. En 1988, Tim Burton, qui réalisait Beetlejuice, une comédie, film, fantastique, horreur, bref, tout plein de choses là-dedans. Mais en septembre prochain, Beetlejuice 2 qui va sortir dans les cinémas.
Non, je refuse.
Puis en plus, on joue encore plus sur la nostalgie. On ramène des acteurs originaux du film.
Un caméo comme on aime.
Ghostbusters aussi, hein? Il y a ça, là.
Oui, exactement. Puis c'est la même chose en TV aussi. De 2007 à 2012, Disney nous amenait dans un monde où la magie était présente avec les sorciers de Waverly Place. En janvier, on nous a annoncé que la série allait être de retour.
Avec Selena Gomez?
Elle a mentionné son intérêt. Puis celui qui jouait son frère aussi. Là. Bref.
David Russell, je pense que c'est son nom.
Là, ils veulent rendre la génération Z nostalgique. Là.
Exactement.
Ça va, ça va loin quand même. Là.
À petite échelle, au Québec, bon, il échappe pas. Hein. Je pense que ça passe partout. Ouais. À Star Academy, il y a quelques années, on a fait un retour aussi. Même dans une galaxie près de chez vous, le troisième film qui est dans les plans en ce moment. Puis le 1er mai, il va y avoir une mini-série qui sort sur Crave de 3 épisodes dans une galaxie près de chez vous, 25 ans de mission. Bon, là, Camille...
Personne m'avait dit que je suis contente que tu sois là pour faire mon éducation...
culturelle.
Ouais. Populaire. <C'est bien. rire> Puis, l'industrie a compris les choses. Hein. Vous voyez, Camille est toute excitée. Ben, c'est ça. On est nostalgique puis on aime le confort. Désolée. c'est un peu ça, la nostalgie. On reconnaît un sentiment, une émotion qu'on a déjà eu en regardant quelque chose puis on a envie de revivre ça. Puis j'ai de la misère à me dire que c'est bon, mais en même temps, ça attire toute l'attention médiatique puis que pendant ce temps-là, les productions originales, les vraies nouveautés, désolé, là, c'est aussi des nouveautés, mais les nouveautés qui passent sous le radar, là. Vous allez me dire, Jess, il était temps que tu comprennes le fondement du capitalisme. Ouais, désolée,
mais c'est correct, on arrive tous à ce moment-là dans une vie puis c'est l'enfer.
Mais ça me fâche, là. Je me dis que pendant ce temps-là, il y a des créateurs qui sont un peu volés leur temps de pitch d'idées par ceux qui reprennent des concepts connus, mais qui payent. Ouais. C'est ça.
Ouais.
Puis là, je vous ai parlé du monde du cinéma, de la télé un peu, puis en musique. Bien, ça se fait ressentir un peu différemment, mais c'est là quand même. Je me souviens d'un moment plus jeune où je chantais la toute nouvelle chanson de Justin Bieber, Love Me. En chantant le refrain, mon père se met à chanter avec moi. Mais c'est impossible que mon père connaisse la chanson de Justin Bieber. Il chantait plutôt le refrain de la chanson Love Fool du groupe The Cardigans. Donc, c'est le même refrain qu'avait repris Justin
Bieber. Ça m'avait tellement fâché quand j'avais appris ça.
Ben moi aussi, puis c'est arrivé souvent là, dans ma grande existence.
Puis même la chanson très populaire Love Again de Dua Lipa, qui était une reprise, je pense, de White Hand. Oh mon Dieu, non. Je suis en train de scraper le nom, mais en tout cas, un groupe très populaire.
Mais ça se fait depuis toujours en musique. Ouais. De reprendre un refrain connu ou de faire du sampling, échantillonnage en français.
Madonna l'a fait pour...
C'est mon exemple que j'allais dire. C'est l'exemple le plus connu. Madonna, avec sa chanson Hung Up, qui a échantillonné ABBA, la chanson Gimme, Gimme, Gimme. Mais ça se fait tout le temps. Puis quand je dis que c'est différent en musique, c'est que c'est comme normal dans cette industrie-là. Parce que quand c'est fait, il y a des droits à payer. Dans la musique rap, c'est plus que fréquent. Hein. Je pense à Bad Bunny qui l'a fait récemment avec la chanson « Hier encore » de Charles Aznavour.
Ça, c'est tellement bon.
Oui.
C'est tout ce que j'ai à dire.
Puis là, je me demande avec tout ça, est où la limite? T'sais, tu le dis, c'est bon. Quand est-ce que c'est trop? Quand est-ce que ça arrive au bon moment? Quand j'entends les nouvelles versions qui ont été faites avec la chanson « Blue » de Eiffel 65, je me dis, bon, c'était un bon hit. Pourquoi on l'a changé? Sauf que d'un autre côté, la génération plus jeune pour qui « I'm good » de Bibi Rexha et David Guetta, ça va être ça, leur référence. Pourquoi le retour de Beetlejuice m'enchante, mais que, attention, opinion impopulaire, le retour de la petite vie, moi, j'ai trouvé ça moyen. Puis ça, c'est un statement, désolé. Ouais. Ça s'explique parfois par le fait que la société a évolué d'une certaine manière. Les blagues sont bonnes dans le retour de la petite vie, mais c'est plus vraiment le genre d'humour qu'on fait en 2024. Les rires en canne, c'est un petit peu dépassé. Ouais. Par contre, je le mentionnais dans le test, on est nostalgique de comment la société était avant. Bref, c'est peut-être ça que certains ont ressenti dans la petite vie. Puis, la nostalgie est un atout parfois parce qu'elle nous permet de créer sans fin, mais à quel prix? Je sais pas pour vous, mais souvent, quand il y a un film, un reboot d'une série, quelque chose qui ressort et qu'on connaît, on a des attentes. C'est rare, mais ça arrive. Mais c'est rare qu'on se dise « c'est bien meilleur que l'original ». Je pense à Dune. Ça, c'est un des bons exemples. La version de Denis Villeneuve qui est beaucoup plus appréciée que la version de David Lynch en 84. Bon, là, je ne l'ai pas vu encore, mais j'en ai entendu beaucoup parler. J'ai regardé les critiques. J'ai même entendu dire que c'était la meilleure adaptation du livre de Frank Herbert. Bref, ça ne changera pas tout ça. J'espère qu'on va continuer à créer des classiques qui vont être refaits dans 30 ans, parce qu'il faut en créer. Puis en attendant, je vais attendre impatiemment le moment où on va reprendre la franchise Twilight pour pouvoir dire que c'était bien meilleur quand c'était Robert Pattinson qui jouait Edward.
Ça?
Je ne sais pas.
Ça serait ça, parce que j'allais demander, toi, tu voudrais quoi? Mettons quelque chose qui a été fait dans les 10 dernières années.
C'est mais je pense que ça va être refait. Non, mais je dis ça parce que je suis sûre et certaine que dans 20 ans, on va reprendre. Je peux pas croire, ça a été une grosse franchise. En ce moment, on reprend en série Harry Potter, donc... Dans quelques années.
Ah, oui?
Oui, ça va être fait bientôt. Là.
Mais moi, si vous vous ennuyez de Kristen Stewart, je vous invite à aller voir le nouveau film Love Lies Bleeding, un film de lesbienne qui tue plein de monde.
Oui.
Mon rêve. Je l'ai vu cette semaine. Ma foi, quand même très bon. T'sais, c'est vraiment un film d'action avec la violence et tout ça, mais ça vaut la peine, c'est bien fait. Et Kristen Stewart est tellement
belle. Oui, avec sa couverture de Rolling Stones. Wow. Moi, j'aimerais juste plugger aussi un reboot de Au secours de Béatrice. C'est tout ce que je voulais dire.
Oui, oui.
Et on n'a plus de temps.
Mais là, fallait le faire. Suzanne n'était pas là pour en parler.
C'est ça.
Là.
Moi, Sophie Lorrain, je veux la revoir dans son rôle de Béatrice.
Oui, exact.
Jess, à vous.
Oui, mais c'est ça. Il faut que ça soit un reboot, mais qu'elle revienne, pas qu'elle soit remplacée.
Exactement.
S'il vous plaît. Oui,
un caméo.
Plaît.
Après la courte pause, restez sur les ondes de Cybèle 101.5 puisqu'on reçoit le professeur au département de sciences politiques à l'UQAM, tout un titre, et l'écrivain Francis Dupédéry.
Vous cherchez une activité originale, ludique et rassembleuse? Venez jouer avec nous au Bingo Radio de CIBL tous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. À gagner 3 500 $ en prix. Pour participer, procurez-vous un livret de cartes de bingo pour moins de 10 $ dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. C'est un rendez-vous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. Invitez vos amis. Bonne chance!
Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoune, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Viens écouter Attache Tatoune. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoune, jeudi de 13h à 14h sur CIBL 101.5.
Chez Éduque à Loi,
on sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre.
Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair.
Alors arrête de tourner les coins ronds.
Et renseigne-toi avec Angle Droit.
Chaque mardi de 11h à 11h30.
Sur CIBL au 101.5.
C'est un rendez-vous parce que savoir,
c'est pouvoir.
Spraynet et Spandex, tous les hits des années 80.
Wow, wow, qu'est-ce que c'est ça?
Ben, c'est pour annoncer ton émission.
Mais non, je ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense.
OK, reste en ligne, cours la chance de gagner un voyage à Vegas avec 4 de tes chums.
Eh, hey, boboy! Spraynet et Spandex les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur CIBL 101.5
FM.
CIBL 101.5
Montréal.
Montréal. La radio communautaire, parce que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur d'onde.
CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
Notre invité de la semaine est avec nous, Francis Dupuy-Déry, Jingle. Vous le connaissez sûrement pour ses recherches et ses apparitions médiatiques sur le thème de l'anarchisme. Oui, oui, c'est bel et bien Francis Dupuy-Déry. Fils de Thomas Déry, ancien directeur du Salon du Livre de Montréal et d'une mère québécoise, le jeune Francis grandit dans les années 60 à Saint-Lambert quand c'était encore abordable. Il quitte la maison familiale tôt et comprend avec sa première compagne que les hommes doivent aussi faire leur part de choses à la maison, dans les tâches domestiques. À l'université, durant ses études, d'abord à l'UQAM, puis l'Université de Montréal et ensuite l'Université de la Colombie-Britannique, Francis s'intéresse aux mouvements sociaux en tout genre et au système démocratique.
En 2006, il devient professeur au département de sciences politiques, enseignant d'abord sur les théories des démocraties, puis ce cours unique au baccalauréat sur les antiféminismes. Les intérêts du professeur sont vastes et d'actualité depuis de nombreuses années. Mouvements sociaux, anarchisme, antiféminisme, un discours qui n'est pas aussi que l'on pense, mais aussi les scandales de liberté d'expression à l'université. Ce soir, avec Francis Dupuy-Déry, on jette nos projecteurs sur ces sujets chauds pour tenter d'en parler à froid.
Bienvenue à Sainte-Catherine-Saint-Loup, Francis.
Merci beaucoup, ça fait plaisir d'être là.
Oui, merci. Avant de plonger dans le sujet, on demande toujours cette question-là à nos invités. Vous en avez peut-être parlé récemment au micro de Rad. Vous venez de où, si on oublie le côté géographique?
C'est ma psychanalyse, c'est ça?
Peut-être un peu, peut-être.
Elle, on l'a refait avec nous, vous l'avez fait avec Olivier en
ouais, on en a pour 7 ans. Une psychanalyse, c'est 7 ans, non, il me semble?
Oui,
à peu près 7 ans.
Ouais. Donc, rapidement, très rapidement. Donc, ma famille et mon père est d'origine... il est né à Paris dans les années 30 de parents juifs hongrois qui avaient fui la Hongrie pendant la crise économique, donc au début des années 30. Donc, ils ont déménagé à Paris. Mon père est né. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale peu après. Donc, vous pouvez imaginer que ça a été un peu compliqué par miracle. Mm-hmm. Et tout le monde a survécu caché en se déplaçant et tout. Et puis, dans les années, début fin des années 50, mon père devait faire son service militaire qui était obligatoire à l'époque en France. Mais il y avait la guerre d'Algérie, donc il a décidé plutôt de venir affronter l'hiver ici. Et à l'époque, donc, dans les années 50, mon père est athée par ailleurs, mais la communauté juive au Québec était principalement anglophone. Il n'y avait pas encore les juifs séfarades qui sont arrivés au début des années 70, qui étaient francophones là, du Maroc, Tunisie et tout. Et donc, il s'est retrouvé dans des réseaux, en fait, francophones. Et là, il a rencontré ma mère, qui est, elle, originaire d'une ferme à Taban, en fait, à l'époque, dans le coin de Joliette, d'origine acadienne, athée, elle aussi. Mais dans les années 70, on allait à l'école publique catholique. Donc, moi, j'ai une formation catholique. Je ne sais pas si c'était la question auxquelles vous vouliez que je réponde, mais ça...
Ben oui, nous...
Ouais, entre autres, parce que... Ben oui, c'est un peu ça. Oui. Vous répondez comme vous voulez, mais...
Merci.
C'est intéressant parce que vos deux parents ont subi aussi... ces expériences-là de déplacement par rapport à leur origine, je veux dire, votre mère acadienne, votre père juif, que ses parents ont quitté, ont fui, ont fui bien sûr les nazis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué là-dedans?
Donc moi, quand j'essaie de comprendre un peu mon cheminement, je me dis, d'après moi, c'est ça qui a dû influencer le fait, parce que... La Rive-Sud, Saint-Lambert, dans les années 70, là, c'est totalement homogène. La seule différence, c'est qu'il y a des anglophones et des francophones qui se lancent des roches, là, mais tout le monde est chrétien, tout le monde est blanc, tout le monde est de classe moyenne, moyenne aisée. Nous, c'était moyenne. Les familles sont très conservatrices dans leur mode de vie. Donc, moi, j'étais plus ou moins bien dans ce milieu-là. J'étais très bien dans ma famille. Là, j'ai une famille heureuse, si on peut dire ça comme ça. Mais, mais donc, j'ai l'impression que c'est ça qui a créé une sorte de vue un peu oblique sur la réalité, cette expérience familiale un peu différente des autres. Et puis après ça, je suis arrivé... et puis aussi, je dis des fois que ça vous parle peut-être même moins... Mais moi, dans les années 70, dans ma chambre, j'avais un tourne-disque. Mm-hmm. Et donc, quand j'étais petit, j'écoutais des histoires. Vous savez, là, les enfants, on écoute 172 fois la même histoire pour s'endormir. Là. Donc, quand je suis devenu ado, en fait, mes parents avaient des vinyles. C'était les premiers monologues d'Yvon Deschamps. Donc là, on parle d'Yvon Deschamps du début des années 70. Donc, il m'a fait comprendre qu'il y avait au Québec des gens pauvres. Des gens, c'était la question de la pauvreté à Saint-Henri, c'était la question des luttes syndicales, c'était la question de l'exploitation, c'était la question aussi de dans les monologues d'Yvon Deschamps, il y a beaucoup la question des femmes, des mères qui sont en charge de tout, alors que les maris font pas grand-chose. Donc ça, je pense, ça m'a marqué aussi. Puis dans les années à 17-18 ans, je suis allé dans un échange linguistique en Angleterre, puis là, j'ai découvert les punks.
Ah, oui.
Parce que là, on est dans les années... début des années 80, donc je suis revenu punk, pas bilingue. Là, je suis pas revenu bilingue, ça a été un échec, mais je suis revenu punk. Puis là, j'ai commencé à écouter la musique de Berrurier Noir. J'étais le seul punk de mon quartier, là, donc j'avais un mohawk, etc. Donc ça, voilà. Vous en savez plus que ce que j'en dis d'habitude.
Oui, en fait, la situation des punks, vous en avez parlé en 2018 à Marie-Louise Arsenault. Vous avez dit que vous étiez maintenant un vieux punk.
Un vieux punk, oui. Ben, punk, pas encore du troisième âge, mais plus vieux. Puis je me suis rappelé dernièrement quelque chose que j'avais complètement oublié, c'est que à 18-19 ans aussi, quand j'allais au cégep Édouard Montpetit, entre autres, ça allait avec l'outfit punk, mais je portais des jupes.
Mmh.
Et Et j'avais décidé par moi-même, tout seul, comme un grand garçon, que finalement, les toilettes seraient non-genrées pour moi. Puis donc, j'allais dans les toilettes des filles aussi, au sujet Pedro Monti, ce qui finalement était une idée complètement stupide, en fait, à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de mouvement pour ça. Il n'y avait pas de. Mm-hmm. C'était comme un truc que j'avais l'impression d'être original et transgressif. Mais en fait, après deux, trois fois, me faire. Oui. Regarder j'étais de manière dehors, un peu bizarre, ouais. J'ai arrêté cette tactique qui était un petit peu bizarre.
Vos intérêts de recherche sont très divers. Et qu'est-ce qui relie antiféministe, anarchisme et scandale à l'université, des sujets sur lesquels vous avez beaucoup écrit dernièrement? Qu'est-ce qui relie tout ça pour vous?
Ouais, ça c'est une question difficile. Je suis pas sûr qu'il y ait une vraie réponse. Mm-hmm. C'est vrai que les profs d'université d'habitude, on est depuis au moins les années 90, là on est dans des logiques plutôt de super spécialisation. Mm. Donc l'éclectisme c'est pas la norme. Mm-hmm.
Trouvez-vous que vous êtes éclectique dans vos sujets?
Oui, ben c'est ça. C'est que moi je pars dans différentes directions. Donc ça serait un peu artificiel d'essayer de tracer un lien avec tout ça. Là, c'est vraiment des intérêts, des passions, puis des questionnements qui sont spécifiques. Puis des fois, pendant 2-3 ans, je peux plus travailler sur une chose. Oui. Pendant 2-3 mm-hmm. autres années, j'ai beaucoup travaillé sur la répression policière dans les années 2005-2015. Je travaille un peu moins sur la répression policière aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé sur la question de la démocratie. Sur le mouvement, à l'époque de l'altermondialisme, je travaillais sur la démocratie directe et l'anarchisme dans le mouvement altermondialiste qui n'existe plus techniquement. Ça fait plusieurs années que je n'ai pas écrit spécifiquement sur le mouvement anarchiste ou mené des recherches. Mm-hmm. J'ai terminé une longue recherche que j'ai faite pendant 5 ans sur les grèves dans les écoles secondaires. Mm-hmm. Donc, bref, donc c'est ça. J'ai de la difficulté quand je commence à être intéressé par quelque chose à ne pas commencer à travailler là-dessus. Là.
Mm-hmm. Il y a un mouvement en ce moment en Corée du Sud, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, les Furbies.
Oui.
Ouais. c'est ça, donc, tu sais, juste pour expliquer aux gens, c'est dans le fond, c'est des femmes, au lieu de se battre contre le patriarcat, elles le quittent, donc elles rejettent les relations amoureuses, mariage hétérosexuel, parce que là-bas, on discute pas, comme ici, des enjeux pour les femmes qui sont, tu sais, on n'en parle pas publiquement.
Ouais.
Donc, dans le fond, les rôles de la femme à la maison sont très forts, l'apparence, le male gaze, tout est plus accentué là-bas. Et ça grossit. Et moi, je me demandais, comme dans Dune, là, les Bene Gesserit existent. Et je me demandais, comment est-ce que vous voyez ça en dernier recours, comme en Corée? Vous en pensez quoi à long terme?
Moi, je ne pense pas grand-chose de la Corée. Là, je ne connais pas. J'ai lu de loin. Je pense que j'ai lu un reportage sur ce mouvement-là, donc je ne suis vraiment pas du tout spécialiste. Mm-hmm. Il y a toujours une tradition, moi, si je comprends bien, dans le mouvement des femmes, mouvement féministe, il y avait une tendance ou une tradition qui était plus séparatiste.
Ouais.
Mais séparatiste, ça peut être ponctuel, ça peut être pour la vie, ça peut être lié au lesbianisme mm-hmm. ou pas, d'ailleurs. Mais il me semble que c'est une avenue qui peut être légitime et possible. C'est pas mon avis, je sais pas s'il est très important là-dedans, là.
Okay.
Mais il y a aussi le lesbianisme mm-hmm. politique qui existe. Qui a existé, en fait.
Années 70-80,
oui,
surtout.
Qui était plus en vogue, hein, oui. C'est ça. Est-ce que c'est une solution par rapport à... Bon, on pourrait y venir justement à réagir contre les discours de la masculinité qui sont en vogue en ce moment?
Oui, si les gens sont intéressés, je sais que... Ça fait longtemps que j'ai regardé ça, mais je sais que... Il y a quelques années, j'avais trouvé, c'est à l'Université d'Ottawa, le professeur s'appelle Dominique Bourque. Mm-hmm. Elle avait organisé un colloque sur le lesbianisme politique et il y avait des conférences qui étaient accessibles en ligne là, sur mm-hmm. le web. Là. Donc, si ça vous intéresse, j'imagine que c'est encore accessible aujourd'hui. Lesbianisme, vous faites Google, là, vous connaissez ce moteur de recherche incroyable.
Ah oui!
Je pense,
moi, je l'utilise des fois.
Là,
je
quoi?
Ça.
Oui, il faut vous apprenez des choses. Il faut plus de techniques, mais... lesbianisme politique, Dominique Bourque, Université d'Ottawa, d'après moi, vous allez tomber sur des conférences là-dessus. Une de ces thèses, Dominique Bourque, j'espère que je la mésinterprète pas ou je la rapporte correctement, mais elle dit que les lesbiennes ont toujours été, ça a toujours été compliqué parce qu'à partir des années 60, parce qu'il y avait le mouvement féministe, puis là-dedans, des fois, elles n'étaient pas bienvenues.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Puis elle dit maintenant, il y a le mouvement queer, fait qu'elles ne savent pas trop où se mettre non plus, donc ça peut être compliqué des fois.
C'est intéressant. Bien, rentrons dans le sujet, comme j'ai mentionné. Vous avez publié le livre, en fait, là, que j'ai lu il y a longtemps, mais là, je me suis replongé dedans pour l'entrevue, là, « La crise de la masculinité, autopsie d'un mythe tenace », dans lequel vous faites la démonstration que les crises de la masculinité n'en sont pas vraiment. Donc, dans le fond, qu'elles sont plutôt des discours qui reviennent lorsque des avancées féministes. Donc, action-réaction, si on peut dire ça. Est-ce que la montée des discours masculinistes, transistes, auxquels on assiste aujourd'hui, sont donc inoriginales ou est-ce qu'elles ont une certaine spécificité, celle qu'on entend aujourd'hui?
Oui, alors, je vais juste préciser, en fait, en Europe, ça fait au moins, même, en fait, ça fait plus longtemps que ça, c'était même à l'époque de la Rome antique, mais au début du 15e, 16e siècle, il y a déjà des discours de crise de masculinité. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un gros mouvement féministe pour qu'il y ait ce discours-là. Il s'agit qu'il y ait quelques femmes qui soient pas, qui restent pas à la place où on veut qu'elles soient en termes de normes ou de pratiques ou d'attitudes pour qu'il y ait ce discours-là. Donc, ce discours-là, il apparaît, quel que soit le régime politique, quel que soit le régime économique, le droit de la famille, vous pouvez avoir... Les femmes peuvent ne pas avoir le droit de voter, pas avoir le droit de travailler, pas le droit d'aller à l'université, pas le droit de porter des armes, pas le droit d'être élu, pas le droit de... Puis il peut quand même avoir des hommes qui disent que les femmes dominent les hommes et que les hommes sont souffrants. Donc ça, c'est la première chose. Mmh. Et la deuxième chose, je ne me rappelle pas c'était quoi la question.
Oh, ben, c'est plus de savoir si le discours...
Exact.
En contexte occidental, c'est sûr.
Oui, tout à fait. Donc là, selon le contexte, il va y avoir des explications différentes ou des nœuds différents. Donc, avant la libéralisation du divorce, ben, en fait, les hommes étaient considérés comme souffrants parce qu'ils étaient dominés par leur épouse. Donc, les épouses, vous rentrez en mariage comme dans une prison, vous retrouvez dominé par votre épouse, et en fait, vous souffrez de ça, et c'est les mères au Québec, c'était la théorie qu'il y avait un matriarcat québécois, que les mères étaient dominatrices dans les campagnes, dans les maisons, dans les familles, que les pères étaient finalement... évacués là, de la vie des enfants, de la vie familiale, qui était... Et puis après ça, ben, là, vous avez la libéralisation du mariage, puis maintenant, ben, c'est les ex. C'est les ex qui dominent les hommes par la pension alimentaire, par les avocats, par les fausses allégations, vont-ils dire. Puis si vous êtes dans d'autres contextes, vous allez avoir d'autres arguments. En Russie, après l'URSS, donc, après l'effondrement de l'URSS, en Russie, il y a un discours de la crise de masculinité encore aujourd'hui. Mais c'était, en fait, l'explication, c'est que le système soviétique avait affaibli le patriarcat russe et puis qui sortait de là comme complètement efféminé ou dévirilisé, là. Puis qu'il fallait qu'il se revirilise. Donc, bref, selon le contexte spécifique, il va y avoir différentes manières de présenter les enjeux de la crise de masculinité. Je pense... féministes afro-américaines comme Bell Hooks, Patricia L. Collins et Angela Davis, entre autres, ont bien montré, par exemple, que dans la communauté afro-américaine aussi, il y a un discours de la crise de masculinité, mais là, on va dire c'est la mère monoparentale afro-américaine qui domine l'homme et exclue. C'est à cause de ça que les jeunes garçons se retrouvent en prison, se retrouvent à la criminalité parce qu'il manque la figure de l'homme. Puis il y a même
ou devient homosexuel, il y a ça aussi.
J'imagine certainement, puis je ne vois pas d'autres explications. Et il y a même un mouvement plus conservateur, le Million Men March, aux États-Unis, qui est comme pour que les hommes afro-américains fassent un pledge, fassent le serment d'être des pères responsables, d'être des pères présents, d'être une figure d'autorité pour que les jeunes garçons noirs aillent mieux. Donc, c'est ça aussi, c'est dans le contexte spécifique de l'histoire de la communauté afro-américaine. Ça crée des tensions entre afro-féministes et masculinistes afro-américains aussi. Là.
Et les réseaux sociaux, c'est la nouvelle... comment je pourrais dire ça? Je ne dirais pas le mot qui me viendrait, mais la nouvelle composante qui vient s'ajouter à toutes ces équations-là, qu'est-ce qu'elle change, l'apparition des réseaux sociaux dans la propagation de ces discours ou leur radicalisation, peut-être? On pense à des Andrew Tate, là. La presse a sorti récemment des dossiers sur ça, qui montrent qu'il y a eu des... Bon, on ne peut pas dire scientifiquement qu'il y a eu des impacts chez les jeunes, mais en tout cas, il y a des témoignages qui ont été publiés. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, en tout cas?
Ben, les nouveaux médias sociaux, c'est tous les mouvements sociaux utilisent ça, donc que ce soit l'extrême gauche, l'extrême droite, le mouvement MeToo, c'est un peu inimaginable sans médias sociaux. Il y avait, avant les médias sociaux, des femmes qui dénonçaient leur agresseur. Évidemment, il y avait plein de manières, que ce soit de se rendre sur leur milieu de travail, de le dire à leurs amis, de, bref, de le poursuivre en cours. Mais ouais. C'est sûr que MeToo, ça a créé un, quelque chose qui est lié directement à, aux médias sociaux, évidemment. Puis du côté antiféministe ou masculiniste, ben oui, il y a ces influenceurs-là. Et je pense qu'une des particularités, c'est la capacité à rejoindre les plus jeunes, ce que vous avez mentionné, là, tous les reportages qui sortent depuis quelques années en Angleterre, aux États-Unis, au Québec, on voit que l'influenceur Andrew Tate, par exemple, il rejoint les 14-18 ans. Mm-hmm. Et donc, mais ça, c'est vrai pour les féministes aussi. Les féministes sont, les filles sont féministes plus jeunes.
Oh, okay.
Ouais. Parce qu'à 14, 15, 16 ans, il y a des féministes qui voient sur leurs médias sociaux et disent « Ah, ben tiens, telle influenceuse ou telle
depuis
situation ou, telle,
sociaux,
ou okay. le mouvement MeToo, elle voit ça. » Alors qu'avant, vous pouviez être féministe à 14-15 ans là, par votre mère, par votre expérience, mm-hmm. mais c'était plus, généralement, c'était plus tardif, arriver à l'université ou au milieu du travail ou au cégep. Et donc là, pour les masculinistes, ils vont rejoindre les jeunes garçons. Et vous disiez, c'est difficile d'évaluer les impacts, mais je sais que les reportages montrent que les enseignantes disent que ça crée des problèmes mm-hmm. en classe, qu'il y a des discussions qui sont très difficiles à avoir maintenant, qu'il y a des filles qui n'osent plus parler en classe, parce qu'il s'agit d'en avoir un ou deux adeptes d'Andrew Tate en classe, puis ça bousille quand même votre dynamique de classe.
Oui.
Mon Dieu.
C'est
ouais.
intense.
Oui. Ouais. De ce que j'ai retenu du livre vers la fin, plutôt... Là...
Je peux pas raconter la fin.
Non, non. En plus, en littérature, je...
C'est Marie à la fin, ça.
Oui. Vécure heureux.
Exactement.
Crise et masculinité se marient, puisque c'est toujours ensemble. Moi, ce que je retiens beaucoup, c'est que vraiment, il faut revoir les attitudes et les rôles genrés. C'est une grosse question, Francis, et peut-être complexe, mais est-ce qu'il faut en finir avec les jeux de rôle de genre?
Oui, donc ça, c'est un peu mon semi-paradoxe personnel qui n'intéresse pas vraiment les autres, mais parce que moi, je n'ai pas vraiment de formation...
Ce soir, ça nous intéresse.
Ouais, non, mais moi, je n'ai pas vraiment de formation en théorie queer. J'ai lu des ouvrages de théorie queer, mais je suis plus formé féminisme, ce qu'on appelait radical ou matérialiste, là, qui s'intéresse vraiment, par exemple, à la question du... Oui, de manière très concrète, là, qui travaille pour qui travaille gratuitement, travaille effectuer les tâches, mm-hmm. c'est les tâches domestiques, c'est aidant auprès des personnes âgées, les enfants, mm-hmm. Sur le marché du travail, les divisions sexuelles du travail et les discriminations. Donc moi, je suis formé à ça. Et donc quand je dis à la fin là, qu'il faut se débarrasser des rôles de genré ou des identités de genre, c'est ça, c'est que il faudrait plus que... Fait que c'est pas tellement une question de mode. Là, je disais au début là, que j'ai déjà porté des jupes. Là, j'en porte encore des fois l'occasion, mais très rarement maintenant. Mais la question, c'est pas les effets de mode. Les effets de mode, ils sont... c'est pas que c'est pas important, là, parce que je sais qu'on peut exprimer des choses. Il y a des éléments transgressifs. Il y a de la politique qui se joue à travers les modes. C'est pas, je veux pas minimiser ça, là, mais...
Mm-hmm. Non, on comprend,
mais à la fin de l'année, il faut quand même calculer... qu'est-ce que ça change dans les rapports et les relations avec l'autre? Et par exemple, pour les hommes, qu'est-ce que ça change dans leur relation avec les femmes de leur vie? Mmh. Donc évidemment, si vous êtes hétérosexuel, c'est quelque chose. Si vous êtes gay, c'est autre chose. Si vous avez une famille, pas de famille, etc. Mais si votre milieu de travail... Mais moi, c'est ça que je veux voir. C'est que vous avez beau avoir une transgression des normes, disons, plus au niveau de la mise en scène de vous-même, mais au niveau des pratiques concrètes et des relations, qu'est-ce qui est changé? Et donc, pour moi, comment finir avec les normes de genre ou avec les identités de genre, c'est qu'il ne faudrait plus, dans mon monde idéal, qu'il y ait des métiers ou des tâches ou des fonctions dans le couple ou dans la famille ou entre amis qui soient associées aux femmes ou qui soient associées aux hommes prioritairement. Il peut y avoir des tâches qui sont associées à des talents ou à des particularités ou à des capacités physiques différentes, mais... Moi, je dis tout le temps, si c'est une question de force, ben, testons qui est fort dans, qui est fort dans la place. Là. C'est pas a priori, les femmes sont pas fortes, donc elles font pas ça. Puis mm-hmm. a priori, les hommes ont pas telle compétence, le care, je sais pas. Et donc, les hommes font pas ça. Non, ben, on voit qui a ça. Puis généralement, moi, je reviens tout le temps sur le fondamental, c'est que moi, je suis persuadé qu'en termes d'action et de valeur, si on enlève la socialisation, les hommes et les femmes, on est beaucoup plus semblables qu'on est différents. Mais on est obsédé par les différences. Donc, on remarque toutes les différences le ton de la voix, le... puis on accentue ces différences-là dans notre socialisation, dans la manière d'être. Les hommes et les femmes, on sait comment se mettre en scène pour être différents aussi. Même tout seul, hein, dans notre appartement, le matin, on se lève, puis on sait, je me lève comme un gars, je me lève comme une fille, j'avance, ouais. J'ai des comportements, mes vêtements, tout ça, mais en réalité, tout ce qu'on fait dans la journée, c'est lié à des choses, c'est lié, moi je reviens tout le temps à ça, je dis, la très très grande majorité des hommes et des femmes, on a deux mains, deux bras, des jambes, des oreilles, des yeux, puis c'est avec ça qu'on fait pas mal 99 % des choses dans notre vie.
Mm-hmm. Oui, c'est même Karl Lagerfeld qui disait, on a tous deux jambes et deux bras et le reste, on s'arrange.
Exact. Le reste, on s'arrange, c'est ça.
C'est vraiment ça.
Et donc, puis ça, c'est sans parler des personnes en situation de handicap, évidemment, là, mais...
Ouais.
Mais ça, c'est les personnes en situation de handicap, puis là, il y a les hommes et les femmes là-dedans.
Oui.
qui n'ont pas à discriminer par rapport à leur sexe non plus, logiquement.
Francis, question simple, dans le fond. C'est... si vous aviez, mettons, un masterclass ou un cours à donner devant des adeptes de Andrew Tate, c'est quoi que vous leur diriez?
Ah, mais ça,
des
c'est...
Des jeunes.
Oui, ouais, mais ça, c'est compliqué parce que... Moi, je ne suis pas très... Moi, je suis pas quelqu'un de très optimiste dans la vie.
Et, oh, c'est correct, nous non plus. Ouais. Nous non plus.
Et, je ne suis pas convaincu que... Ouais, c'est une question compliquée. Moi, je ne suis pas convaincu qu'on peut faire... Puis c'est tout à fait... Quand on y pense, en fait, c'est tout à fait normal. Souvent, on pose cette question-là, puis on dit la solution, c'est l'éducation.
Ouais.
Puis comment on fait changer d'avis aux gens? Mais évidemment, on veut faire changer d'avis aux gens qui ont des avis qu'on n'aime pas. Mais ouais. Quand on y pense, nous, on a des avis aussi. Et j'imagine bien que à toutes les personnes que vous rencontrez, à chaque discussion que vous avez, vous ne changez pas d'avis 8 fois par jour.
Mm-hmm.
Et vous avez des avis qui sont plus profondément ancrés, puis vous avez des avis qui sont plus superficiels. Des avis, là, c'est des opinions, des connaissances, des certitudes.
Ouais.
Et donc, si à chaque fois que quelqu'un avait un bon argument, on changeait d'avis, on ferait un sondage, là, comme une journée, vous votez parti conservateur, l'autre journée, vous votez pas, l'autre journée, vous partez voter parti libéral, l'autre journée, vous êtes pour la guerre, l'autre journée, vous êtes contre la guerre, l'autre journée, vous êtes... Ça marche pas comme ça, là.
Non.
Et donc, chez les masculinistes, chez les féministes, il y a des gens qui sont réellement convaincus. C'est pas une question d'argument. Et ils sont convaincus, et en plus, il y a des intérêts... Ce n'est pas juste une question de conviction, il y a des intérêts matériels. Moi, je ne connais pas la vie de ces personnes-là, mais ils peuvent avoir des intérêts matériels. Mm-hmm. Ils peuvent avoir des modèles. Mm-hmm. Moi, je ne connais pas leur père, je ne connais pas leur modèle familial, je ne connais pas leur cercle d'amis. Si leur cercle d'amis, qui est super important, parce que les cercles d'amis, c'est important, c'est toute une bande d'antiféministes, lui,
il a beau
avoir des bons arguments, là, il va se dire, ben oui, mais moi, c'est mes amis, là, je ne vais pas perdre mes amis. On vit comme ça aussi, là. On se regroupe avec des gens avec qui on a des affinités. C'est pas dire qu'on pense tout pareil, là, mais faire changer d'avis quelqu'un ou lui faire voir la réalité différemment, là, c'est pas simplement une question d'avoir un bon argument. Là.
Non, c'est vrai.
Et accessoirement, moi, je dis pas nécessairement que les adversaires ont nécessairement toujours des arguments faux. Ils peuvent avoir des bons arguments ou ils les enrobent sous... Ils sont forts, les antiféministes, pour parler de science, puis de sociobiologie, puis l'âge des cavernes, puis donc ils pensent qu'ils parlent de science, là. Donc ça, ouais. C'est des certitudes qui sont très profondément ancrées entre nous. Et puis, la dernière chose que je dirais, c'est par rapport à l'argumentation, c'est que des fois, il y a cette idée que la vérité fait bouger les montagnes et on veut leur faire comprendre la vérité, puis c'est par la vérité qu'il y a le plus de force.
Ouais.
Mais moi, je pense que si on regarde l'histoire du 20e siècle, on voit qu'en politique, le mensonge a énormément de force aussi. Il fait bouger des nations entières, il fait conquérir des continents et détruire des civilisations.
Mm-hmm.
Moi, je pense que c'est des points de vue à entendre, des points de vue parfois pessimistes... Dans l'espace public. Moi, je trouve ça très intéressant.
Mm-hmm. Puis l'écho qu'on a des enseignantes au secondaire par rapport à... Il n'y a pas encore d'études systématiques qui a été fait là-dessus, mais il y a des reportages qui ont été faits, puis on commence à en discuter au niveau des syndicats, entre autres. C'est que...
En classe, ça vient plus qu'une croyance. Là, ça peut te déranger aussi dans la classe.
Oui, mais c'est que les enseignantes disent... Ils sont convaincus, là.
Mm-hmm.
Puis ils sont convaincus de choses comme... Je sais pas les personnes qui nous écoutent si tout le monde connaît Andrew Tate là, mais Andrew Tate en ce moment avec son frère il est en prison en Roumanie, ouais, accusé de trafic humain à des fins de proxénétisme. Il y a des enseignantes qui disent non mais il y a des élèves qui disent non mais ça c'est pas vrai.
Ah ok, ouais.
Il est pas en prison.
Mm.
Ouais. Ben là. C'est que c'est quand un peu là. C'est un peu compliqué de discuter après
ouais,
ça là.
Quand c'est, ouais.
Merci beaucoup monsieur Francis, oui, Dupuy-Déry.
Merci.
Vraiment. Vos livres sont disponibles, vos livres. Bon, Althusser assassin, Crise de la masculinité, Autopsie d'un mythe tenace, Les hommes et le féminisme, là, tous ces livres sont disponibles en librairie et on va mettre les liens sur les réseaux sociaux. On tient à remercier nos fabuleux collaborateurs qui étaient avec nous aujourd'hui, Simon Veilleux, Camille Sébastien et Jessica Saint-Germain.
À la mise en onde, notre Clémence Langlois, toujours à l'affût, et on remercie notre ami Jacob Desjardins, d'ailleurs, qui viendra faire son tour en fin de saison. Restez pas loin pour ça.
Oui. Merci à Laurence Hébert et Marie Vinet pour les réseaux sociaux, les belles vidéos que vous voyez dans vos feeds Instagram et TikTok. C'est elles qui les font à chaque semaine.
Retrouvez-nous la semaine prochaine dès 19h sur les ondes de CIBL 101.5. On reçoit l'artiste Étienne Dufresne pour venir nous parler de son nouvel album.
Oui. On vous souhaite une belle fin de semaine à tous nos auditeurs et auditrices. Catherine et moi, on vous dit à la semaine prochaine au coin Sainte-Catherine-Saint-Loup dans le Grand Montréal.
Vous cherchez une activité originale, ludique et rassembleuse? Venez jouer avec nous au Bingo Radio de CIBL tous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. À gagner 3 500 $ en prix. Pour participer, procurez-vous un livret de cartes de bingo pour moins de 10 $ dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. C'est un rendez-vous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. Invitez vos amis. Bonne chance!
La fin du rap. Une émission 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs qui ne vous laissera jamais sur votre appétit.
On vient juste reprendre ce qui est à nous. Comment? On a le flow, on a le flair. Tout Gucci, comme le flair. Ice, ice, en enfer. Laisse-nous faire, légendaire.
Rassasiez vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, Marily et Veda, les lundis de 19h à 21h à CIBL.
Monsieur Bulle et compagnie, un magazine radio sur le vin, la bière et les spiritueux. Des conseils pour mieux boire. Guinaël Revel et son équipe parlent du bio, de la viticulture, des spiritueux, des vignobles du Québec, du Canada, de toutes les nouveautés de la planète vin et une chronique fromage. Monsieur Bulle et compagnie, les vendredis de 9h à midi, rediffusion les dimanches 21h à CIBL 101.5 Montréal.
CIBL 101.5 Montréal.